Les podcasts d'AFDS.TV, les suppléments d'Aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les entretiens d'AFDS, Lise-Marie Cassard.
Comment Téléchat démarré ? En fait, mon associé et moi, mon copain et moi, qui est malheureusement décédé depuis, donc Henri Honneux, on avait créé la boîte en 69 et ça a assez vite fonctionné. On a produit des feuilletons pour la télévision et on s'est retrouvé dans les marchés de films. Et dans les marchés de films, on s'est rendu compte que les programmes pour enfants avaient une grande demande. On s'est aussi rendu compte que ces programmes, c'était un peu de la soupe, c'était de l'usine, c'était pas très original. C'était toutes des émissions où on prenait assez bien les enfants pour des débiles. Alors, on était jeunes, très ambitieux, et ça date quand même des années 60, 77, 78. Et alors, on a eu envie de faire mieux que les autres, et on a réfléchi à un concept qui s'appelait les machins chouettes, et c'était les objets qui parlaient et qui vivaient des aventures. Pourquoi on avait choisi des objets ? On s'était rendu compte aussi que les enfants, en bas âge, du moins, en fait, prennent les objets pour des personnages. Si un gosse se cogne à une table, il dit méchante table, des choses comme ça. Donc on est parti dans ce concept et aussi de tenter d'avoir des histoires et des dialogues qui n'étaient pas cucu la praline. On a fait une première approche de scénario, et alors il y a eu un petit miracle, c'est-à-dire qu'on était très adepte de Roland Topor, et en 76 ou 77, Topor était venu présenter une pièce qui était Vinci avait raison, au Poche. Et comme on connaissait bien les gens du Poche, le soir on s'est retrouvés dans le même restaurant, à la même table, et on a fermé le restaurant à trois, Roland, Henri et moi, et on est devenus copains comme cochons. Roland a très vite adhéré à cette histoire. Il se fait qu'il avait fait des dessins d'objets humanisés. Et donc voilà, Roland est rentré là-dedans, il a pris en main tout l'aspect graphique, et Henri a pris la notion de la réalisation et moi la notion de la production, et ensemble ils ont rédigé les scénarios et on a fait un pilote je crois que c'était en 78, un premier pilote en film, et on s'est rendu compte tout de suite des limites à ce moment-là de ce pilote, parce que le film ne nous permettait pas à des prix concurrentiels de travailler avec un certain nombre de trucages. Et on a refait un deuxième pilote en vidéo, et c'est avec celui-là qu'on a commencé à démarcher, et c'est aussi une succession de petits miracles, parce qu'il faut toujours croire à sa chance. Et dans un des premiers marchés, on a rencontré deux jeunes femmes qui était pourtant à la vente d'Antenne 2, mais on est devenu copine avec elle, et elles nous ont introduit chez Jacqueline Joubert. Quand Jacqueline Joubert a vu ce pilote, elle a tout de suite embrayé dessus. Je pense aussi que c'était le pendant de ce qu'elle faisait, parce que dans Récréa 2, elle venait de lancer Dorothée, qui était évidemment un certain type de d'émission pour enfants que nous ne cautionnons pas très fort, mais elle était une femme extraordinaire, parce que je crois qu'elle avait une vision très très large, et finalement elle s'est payée les bonnes critiques dans le Figaro et les très bonnes critiques dans Libération, et on est devenu très copains avec elle, et finalement avec Roland, Henri, elle et moi, on a passé énormément de soirées et de dîners plus qu'agréables, et c'est comme ça que Téléchat est né. Mais ça a donc mis 6-7 ans entre la conception de départ et de trouver une chaîne qui finalement dise oui. Et Jacqueline a pris beaucoup de risques, parce qu'elle devait convaincre sa direction de donner à des parfaits inconnus et à un zozo comme Topor qui avait touché un touche-à-tout, de donner un budget. Et alors bon, ça suffisait pas, on a aussi été trouver un partenaire hollandais qui était Chanowski Productions, qui avait lui travaillé dans l'enfant avec une émission qui était assez intéressante, qui s'appelait le Journal des Fables, et Fables Crunches, et qui mettait en scène une technique qu'on allait utiliser, qui étaient des marottes, donc des de l'animation par poupée, ce qui était, puisque Téléchat n'est pas du tout du dessin animé ou de l'animation, c'est bien du live. Évidemment, on a été assez loin là-dedans et on n'avait jamais touché à ça et on a inventé tous les jours, tout le temps, pendant 5 ans. La technique s'est totalement améliorée.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Alligator Film est né en 69. Moi, je suis sorti caméraman de l'IAD comme mon copain Henri Honneux. J'ai fait un an ou deux d'actualité chez Belgavox. Puis, j'ai parfait ce système dans le sens où j'étais très mal payé, 8000 francs belges par mois à l'époque, mais je recevais des pots de vin, des petits bacchiches pour filmer tel ou tel événement quand j'étais au salon de l'auto, par exemple, filmer un certain stand plutôt qu'un autre. Et le client me donnait ça, enfin, c'était pas mon client, c'était un, donc quelqu'un me donnait ça et n'avait aucune certitude de se retrouver dans les actualités. Et alors j'ai agrémenté le système en accord avec la maison. Je me suis dit que si on pouvait certifier aux gens qu'ils se trouvaient dans les actualités, on pourrait demander beaucoup plus. 2 ans après, au lieu de toucher 12 fois 8000 francs par mois, je me suis retrouvé très vite en gagnant à l'époque 500, 600, 700 000 francs. Je me suis retrouvé donc avec une certaine trésorerie positive. J'avais envie de monter une boîte, j'ai rappelé Henri et il se fait que François-Xavier Morel, un copain réalisateur qui était avec nous à l'IAD, m'appelle et me dit « Eric, je sais pas quoi faire, je viens de recevoir un budget à gérer pour Nicolas Résimont, le service des variétés, j'ai une carte blanche, je peux faire n'importe quoi, mais j'ai jamais géré de l'argent. Toi, tu nous avais déjà aidé à l'IAD pendant les cours pour c'est vrai que pendant les cours pour le film de fin d'année, par exemple, j'avais déjà trouvé de l'argent hors de l'école. Donc j'avais déjà un tempérament d'entrepreneur audiovisuel. Et je lui dis, écoute, je viens de voir, hein, on m'explique. Et il me dit, voilà, j'ai un sujet, je veux faire un documentaire dans un endroit qui s'appelle Les Olivettes à Liège et qui est un café chantant. Et donc, il voulait filmer le crochet, mais en même temps le fictionnaliser avec une petite aventure entre un jeune qui est dans la salle et une jeune fille et où leur rendez-vous se trouve dans les toilettes et Madame Pipi est témoin de tout ça et il y a une petite histoire à trois. Et voilà, ça a eu énormément de succès. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça a été le démarrage de la boîte. Parce que, fort de mon expérience Belgavox, où j'amenais des financements annexes, donc quand je suis rentré dans ce bistrot, j'ai vu que c'était évidemment un bistrot avec des tas de marques. Donc on avait reçu 100 000 francs de RTB pour faire le sujet. Ça nous laissait peut-être une quinzaine de mille francs de marge pour nous trois. Et j'ai été voir Piedbœuf, qui était le brasseur, et j'ai dit, bon, ben, est-ce que ça vous intéresse de passer à la télé? Ah oui, il n'existait pas du tout de régie publicitaire à l'époque. Hein. Ah oui, mais c'est sûr, mon cher ami, et tout ça. Et combien ça va me coûter? Ben, écoutez, 100 000 francs, et donc on a doublé le budget. Et finalement, ce système, on l'a utilisé jusqu'au moment où la régie publicitaire s'est installée sur les chaînes. Et j'ai fait comme ça chez Pauline ou les McKinney-Bewir, les Roues de la Fortune, le Renard à l'Anneau d'Or. Et voilà, un certain nombre de variétés et de fictions en feuilleton qui m'ont permis de répondre au manque de la RTB ou d'autres télévisions qui nous ont aidé à financer ces films. Et voilà comment est née la boîte. Comme autre programme pour enfants, donc il y a eu l'aventure Téléchat qui a été la première qui a fait le tour du monde, puisqu'on a quand même été nominé aux Oscars de la télévision, qui sont les Emmy Awards. Donc c'est quand même dans les 3 meilleurs sur plus de 2000 programmes présentés. On a vendu à Disney, on a vendu un peu partout. Une petite anecdote là, Disney a refusé 42 numéros, alors qu'ils avaient surveillé le doublage et tout ça. Et puis, quand on a posé des questions, on a dit, non, c'est pas par rapport au doublage, mais c'est le département légal. Oh, bon, quel est le problème, ça? Eh bien, dans 42 numéros, le décolleté de Lola est trop profond. On est tombé sur notre cul, comme on dit vulgairement, et Topor a fait une très belle lettre de réponse. Il a dit, vous avez tout à fait raison, le décolleté de Lola est beaucoup trop profond dans ces numéros-là, mais pour ma part, je n'ai jamais confondu une femme et une autruche. C'était une très bonne réponse. Ils n'ont pas passé ces 42 numéros-là, mais ils les ont tous payés tout de même. Donc, d'autres programmes pour enfants, mais on a un peu touché à différentes choses. Donc, après ce type de production qui était de la marionnette, on a touché à l'animation avec la pâte à modeler, qui était la série Bogus, qui était un très gros succès. C'était 300 petits formats de 30 secondes. J'avais découvert dans un marché de films deux Benj qui étaient venus présenter d'une façon très amateur un programme qu'ils avaient fait en 8 mm. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire au niveau du fond. Il y avait des manquements au niveau de la forme et des moyens. Et alors nous, on a investi dans du 16 mm à l'époque, en caméra image par image, et fort de mon amitié et des succès qu'on a vus pour Téléchat, avec Jacqueline Joubert, elle est repartie en coproduction sur ça. Et ça, c'était aussi un gros succès parce que on a vendu aux Américains le format, c'est-à-dire le concept, et eux en ont fait 48 numéros de 26 x 26 minutes en dessin animé. Et ils ont gardé nos pâtes à modeler pour faire des virgules. Et on a même refait un certain nombre de pâtes à modeler pour eux parce qu'ils n'en avaient pas assez. Autrement, il y a eu des séries live comme Carré d'As, un assez gros succès aussi, une série de 26 x 26 minutes sur le triathlon, en fiction donc. Il y a eu les dessins animés avec Pichaz, Olympiques, Zoo Cup, les Jules Chiennes de Vie. Donc voilà, il y a eu différentes choses comme ça. Autrement, on a touché à la télé, on a touché au cinéma, puisqu'on a fait une série de longs métrages, des longs métrages en production propre, en coproduction, parfois majoritaire, parfois minoritaire. On a produit plusieurs longs métrages de Marion Ancel, via notre société française aussi, puisqu'on a monté avec Topper, qui était l'associé d'ailleurs en France, une société qui s'appelle Chin Chin Productions, en 86 d'ailleurs. Cette société existe toujours, elle fonctionne toujours. Pour le moment, on prépare un nouveau projet pour enfants qui s'appelle Sambora, qui est une très grande aventure en 3D, donc très ambitieuse, très chère, avec des auteurs belges. Là, on aura un développement qui sera terminé avec un pilote pour janvier, pour aller au Cartoon Movie. Autrement, aujourd'hui, on fait un nouveau long métrage avec Pichat, qui s'appelle Blanche-Neige la suite, un dessin animé pour... pas pour adultes, mais pour le public qui va au cinéma, pour les ados. Il y a eu des aventures. Hein. Marquis a été une aventure extraordinaire, qui était un film, donc notre hommage au bicentenaire de la Révolution française, qui était 13 fois le concept d'E.T. D'ailleurs, Spielberg nous a écrit une lettre à ce propos en disant qu'on avait été extraordinaire. Il avait voulu voir le film. Il n'a malheureusement pas acheté pour les États-Unis, mais c'est normal, c'était un film trop compliqué, trop dur pour eux, puisque c'est la vie du marquis de Sade en Bastillé, mais qui est un épisode de sa vie à la Bastille, mais qui a comme seul compagnon dans sa cellule son propre sexe, et il dialogue avec son zizi. Donc c'était quand même un peu compliqué pour les Américains. Mais ça a quand même eu un retentissement important.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
J'ai pas de personnage préféré. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai une petite affection pour Groucha lui-même, parce que je me suis sans doute inconsciemment et involontairement projeté dans Groucha, dans le sens où tous les costumes qui ont été choisis pour Groucha, c'est moi qui les ai essayés. En fait, le buste de Groucha, c'est mon format. Donc, voilà. Et alors, il y a une anecdote, c'est que bon, Groucha a son bras dans le plâtre, et le premier jour de tournage, je me casse le bras gauche la veille. Et j'arrive au premier jour de tournage avec le bras dans le plâtre. Toute l'équipe a cru que c'était un gag, que je venais avec un faux bras dans le plâtre. Non, non, je m'étais vraiment cassé. Donc voilà la raison pour laquelle Groucha a un plâtre, elle est dans l'histoire dès le départ. C'est que, comme c'est une marotte, l'animateur avait un bras dans la tête et l'autre bras... dans le bras qui peut bouger, et donc il était obligé, donc le bras gauche à la tête, le bras droit pour faire le bras qui bouge, et l'autre bras, qu'est-ce qu'on allait en faire? Donc Roland a imaginé qu'il soit dans le plat. En plus, ça permettait évidemment cette boîte à souvenirs. Non, c'était très surréaliste à ce niveau-là, mais tous les personnages avaient de l'intérêt. Micmac le micro, j'aimais beaucoup. Lola aussi, mais pour moi personnellement, ça a pas du tout vieilli au niveau de son concept. Et ça n'a pas vieilli au niveau de sa forme. Je dirais que j'aurais tendance, quand je les revois, à les monter encore plus courts. Donc, ça avait déjà été assez serré, mais maintenant, je dirais que j'enlèverais bien 30 secondes encore par épisode. Parce qu'à chaque moment, enfin, c'est pas à chaque fois, mais à un certain nombre d'endroits, je raccourcirais encore le montage. Mais pour moi... pour moi, ça tient toujours. Je les ai revus il n'y a pas longtemps, puisque il y a un éditeur qui a décidé de les mettre en DVD en France. Et donc, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de les revoir. Et je trouve que ça n'a pas vieilli. En fait, il y a trois DVD qui sont des best-of, oui. Mais il y a un DVD, il y a en projet un DVD intégral, en tout cas. Mais bon, c'est une question de coût, c'est une question de... Si le commercial prend, il y aura derrière un DVD intégral. Il ne faut pas oublier que c'est quand même 20 heures de programme. Hein, donc, un DVD dans le commerce, c'est généralement un certain nombre d'heures. Donc, si vous prenez des best-of plus les bonus qu'on y met, ben ça fait une longueur normale pour le prix qui est mis en vente. Je vous remercie beaucoup de m'avoir interviewé et je suis toujours ravi de rencontrer des jeunes pour qui Téléchat a compté. Donc c'est vrai que c'est à une époque, mes filles ont l'âge donc elles avaient 8 ans à cette époque-là. Donc je prenais beaucoup d'autostoppeurs jeunes en les amenant à l'école. Et puis j'ai continué à en prendre par après. Et c'est vrai que quand il y en a qui ne disent rien, il y en a qui demandent ce qu'on fait. Bon, je dis, je suis producteur de films. Ah oui, c'est quoi tout ça? Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, peut-être un truc que vous avez connu, Téléchat. Oh, Téléchat, formidable. Et c'est vrai que je pense que en vieillissant, le public a encore plus apprécié Téléchat qu'au moment où ils l'ont vu. Parce que je crois qu'ils ont petit à petit encodé les différences qu'il y avait dans cette émission. C'est vrai qu'il y avait un premier, un deuxième et un troisième degré. Et donc peut-être qu'après, ils ont vu les troisièmes degrés qui est peut-être parfois osé. Bon, il y a un épisode par exemple qui était l'interview du Gluon de la mer et on lui demandait pourquoi il y avait les marées. Et il y avait des petites allusions sexuelles au va-et-vient de la marée et tout ça. Bon, ben, il y avait des drôleries de ce genre qui ont choqué personne. Il y a des gens qui ont été choqués dans l'émission. On a reçu des lettres, mais pour des choses qui étaient totalement ridicules. Par exemple, on avait inventé un langage. Donc, les jours étaient lourdi, pardi, morquidi, urdi, d'andrevi, satordi, mitange pour les jours. Ou alors, il était toujours terteur moins quelque chose. Eh bien, il y a des gens qui nous ont dit, c'est comme ça que les enfants vont pas bien apprendre le français. Bon, je pense que c'est vraiment très exagéré parce que le verlan, ça a toujours existé et les gosses ont toujours inventé des langages pour que les adultes ne les comprennent pas. Donc, ça permettait de leur redonner la parole, en fait. Donc je suis toujours ravi. Maintenant le succès de Téléchat, tout à l'heure vous m'avez demandé est-ce que ça a pris tout de suite. Ça a pas pris tout de suite parce qu'il est évident que dans Récréa 2, on était dans les 5 dernières minutes de l'émission pour évidemment c'était bien de clôturer l'émission comme ça parce que c'était peut-être difficile de mettre cette émission au milieu pour passer, je dirais, à l'usine Téléchat et puis nouveau l'usine, donc c'était mieux de la mettre en fin. Et c'est vrai qu'au début, les jeunes spectateurs ont été surpris. Donc, nous n'avons pas fait moins de codes d'écoute, puisque dans Récréa 2, les enfants ne quittaient pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les 5 dernières minutes ont vu l'émission avoir un taux d'audience supplémentaire. Alors, on s'est demandé si c'était l'émission qui suivait, qui était Aujourd'hui Madame, et en fait là il y avait une chute, donc c'était pas Aujourd'hui Madame qui venait amener des spectateurs, c'était pas des spectateurs qui ouvraient leur poste plus tôt. En fait, après des sondages, et on s'est rendu compte que, un, certains jeunes qui regardaient Récréa 2, mais d'une façon distraite, s'étaient rendu compte qu'il y avait une partie différente, donc ils en ont parlé autour d'eux, donc il y a eu plus de spectateurs, et surtout il y a eu une frange de spectateurs qui étaient des jeunes adultes, qui avaient entre 20 et 30 ans, notamment les lecteurs de Libé, parce que dans Libé on a été très très fort soutenus, dans la rédaction du Monde aussi, et donc on a eu une tranche d'âge totalement différente qu'on n'avait pas imaginée et qui était l'adulte de 20 à 30 ans qui prenait une récréation de 5 minutes dans la journée pour regarder Téléchat. Et ça a amené alors des scores on a eu jusqu'à 10-12 millions de spectateurs par jour, ce qui est énorme, que plus aucune émission ne fait actuellement, enfin, sauf les tops à 20h30, mais on était à 18h. Évidemment, il y avait moins d'offres. Il y avait que 3 chaînes, il n'y avait pas toutes les chaînes câblées, donc aujourd'hui il y a un éparpillement de l'audimat. Mais le public qui était visé, c'était l'ado. Et ça, c'est un public très compliqué, parce que c'est un public qui est en pleine mutation, il vient de quitter l'enfance, il rentre dans un âge qu'il ne contrôle pas bien, toutes les transformations hormonales et tout ça, c'est vraiment pas évident. Donc c'est Dolto qui disait que c'était le homard qui quitte sa carapace et qui est donc fragile parce qu'il n'en a plus. Et en plus, je pense qu'il y a ce rejet momentané de ce qu'on a aimé, donc de tout ce qui est enfant. Donc c'est pour ça que l'ado, je suis pas certain que c'est le spectateur qu'on a eu. Je crois qu'on a eu le spectateur de 8 à 12 ans, mais pas l'ado de 15 à 18. Et pourtant, c'est cet ado-là qui nous en parle. Donc il a dû le voir ou en cachette ou bien on lui en a reparlé, ou il l'a vu quand il a eu 20, 21 ans, puisque Téléchat a été diffusé en gros pendant 10 ans en France. Donc en avançant en âge, peut-être que les premiers adultes qu'il avait vus, ceux entre 20 et 30 ans qu'il avait vus au départ, lui en ont reparlé, qui a été le revoir après. Mais l'ado, au moment même de sa sortie, je ne crois pas qu'on l'a eu.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.